Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saison du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion, coproduit par l'agence de presse AEF Info et la FNEJ. Et quand on parle de gestion dans l'enseignement supérieur, il y a immanquablement un établissement qui vient en tête, c'est l'Université Paris-Dauphine, bien sûr, maintenant appelée Paris-Dauphine PSL, qui est présidée depuis tout juste un an par Bruno Bouchard, notre invité du jour. Et j'ai le plaisir d'être secondé au micro du studio module aujourd'hui par Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Bruno et bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour.
Bruno Bouchard, vous avez été élu à la présidence de Dauphine en novembre 2024. Vous étiez alors déjà membre de l'équipe présidentielle de Dauphine en tant que vice-président de son conseil scientifique depuis 8 ans quand même. Donc Dauphine, c'est une maison que vous connaissez très très bien et une maison qui vous connaît bien aussi puisque vous y avez effectué toutes vos études, depuis le doc d'éco jusqu'au doctorat de maths appliquées, quasiment toute votre carrière, je crois, à l'exception de 6 années à Sorbonne Université. Donc Dauphine et vous, c'est quand même une grande histoire d'amour. Mais en externe, vous restez encore un petit nouveau dans le paysage. Alors pour commencer cet échange, dites-nous un peu qui vous êtes, d'où vous venez et quelles sont vos ambitions majeures à la tête de Dauphine en quelques mots.
Alors merci beaucoup. Alors effectivement, je connais très bien Dauphine puisque j'ai fait toutes mes études à Dauphine, à la fois de l'économie, de la finance et des mathématiques. J'ai fait également un bac plus 5 en économie et finance, le magistère banque finance assurance, avant de faire un DEA de mathématiques et de m'engager dans la recherche en mathématiques. J'ai passé un certain temps dans le laboratoire de probabilité et modèles aléatoires de l'université Pierre et Marie Curie à l'époque, Sorbonne Université, avant de revenir en tant que professeur à Dauphine. Mais j'ai passé aussi 5 ans à l'ENSAE après.
C'était en parallèle, non ? Vous étiez à Dauphine et à l'ENSAE ?
Oui, alors j'étais officiellement à l'ENSAE, détaché de Dauphine, mais je continuais à travailler, à m'investir beaucoup pour Dauphine. Donc bon, c'est une université qui est très attachante, qui permet d'avoir des conditions de travail à la fois en tant qu'étudiant et en tant que professeur ou maître de conférence qui sont excellentes et on s'y attache beaucoup, on y revient naturellement, voilà. Maintenant, en termes d'ambition pour Dauphine, Dauphine aujourd'hui, d'abord Dauphine a énormément progressé sur les 10 dernières années, s'est énormément professionnalisé, a développé beaucoup de nouveaux cursus originaux, comme par exemple notre double licence en IA et sciences des organisations. C'est dans la continuité de l'ADN dauphinois, créé en 68 sur cette idée d'être un pôle majeur en sciences des organisations et de la décision avec à la fois l'éco, le management, le droit, etc., mais également les maths et l'informatique. Donc on continue dans cette logique, on continue à innover. Et évidemment, aujourd'hui, on fait partie d'un ensemble plus grand, Paris Sciences et Lettres, qui dans tous les classements internationaux se positionne entre 30 et 40e place mondiale. Et donc notre ambition, évidemment, c'est aujourd'hui de faire Dauphine non seulement une université très reconnue en France, mais demain une université très reconnu, un pôle majeur dans son domaine à l'international.
PSL, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un regroupement qui compte aussi l'ENS, des écoles d'ingénieurs comme les mines, des écoles d'art, enfin vous êtes combien, une dizaine ?
Un petit peu plus, et c'est alors regroupement, il faut voir ce qu'on met derrière. Oui. Jusqu'en 2016, c'était un regroupement, disons un accord politique, on peut le dire comme ça, on met du temps à construire les choses, mais à partir de 2016, on a commencé à accélérer et à construire énormément de choses ensemble. Je vous donne un exemple, un master qui est opéré, c'est le terme officiel par Dauphine sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle IASD, qui est un des deux masters phares dans le domaine, a été construit dès le début avec les équipes de l'École normale supérieure et les équipes des mines. Donc c'est vraiment une vraie co-construction. Mmh. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, bien qu'il soit opéré par Dauphine, le directeur actuel était un chercheur CNRS qui est hébergé à l'ENS. Donc vous voyez, les choses s'entremêlent.
Ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est, vu de l'extérieur en tout cas, c'est que Dauphine est une université et PSL est une université. Donc ça fait une université dans une université. Donc c'est pour ça que le terme regroupement de l'extérieur est plus parlant, parce qu'on se dit, mais c'est quoi en fait l'université ? Elle est à Dauphine ou elle est à PSL ?
Alors il est vrai que chaque établissement de Paris Sciences et Lettres garde sa personnalité morale et d'une certaine manière son indépendance. Mm-hmm. Nous contrôlons notre budget. Mais il y a aussi des budgets qui sont mis en commun au niveau de Paris Sciences et Lettres. Encore une fois, la construction de Paris Sciences et Lettres se fait par des actions, par des créations de programmes transverses, par des créations de mineurs qui sont offerts à tous les étudiants de Paris Sciences et Lettres. Si on reprend l'IA, par exemple, j'ai d'ailleurs beaucoup travaillé sur la mise en place d'une mineure qui permet à des étudiants de n'importe quelle discipline d'obtenir un certificat dit mineur qui valide des compétences en intelligence artificielle adaptées à leur discipline. Mmh. Voilà, comment vous construisez ce genre de choses ? Comment vous construisez des bacheloraux ?
Quelque part.
Exactement.
Bon, je voulais pas vous faire parler trop de PSL, parce qu'en fait, il y a un sujet qui vous passionne particulièrement et qui nous passionne aussi au Grand Oral, c'est la question du financement de l'enseignement supérieur et de son avenir. Et donc, je voulais vous en faire plus particulièrement parler. On sait que les établissements publics souffrent beaucoup en ce moment, en particulier les universités, parce que leurs subventions publiques déjà fragiles sont ponctionnées de nouvelles charges, les retraites, le point d'indice, la protection sociale, etc. Et finalement, la plupart d'entre elles sont déjà ou le seront à court terme en déficit. C'est une situation qui vous inquiète pour l'avenir, vous l'avez déjà dit. Pourquoi est-ce que c'est grave pour l'avenir du pays à vos yeux ?
Alors effectivement, ça m'inquiète énormément. Je vais simplement donner quelques chiffres pour qu'on mesure un petit peu l'ampleur de la situation. Dans le rapport sénatorial qui est consacré au financement de l'enseignement supérieur, vous pourrez lire qu'en termes réels, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré l'inflation, entre 2021 et 2024, c'est 800 millions de dotations qui ont disparu. 800 millions.
Pour l'ensemble des universités françaises.
Pour l'ensemble des universités. Si maintenant vous rajoutez, vous considérez les charges qui ont été imposées par l'État supplémentaires, donc mesure Guérini, le casse-pension, aujourd'hui la mutuelle obligatoire non compensée, alors qu'il était prévu qu'elle soit compensée. Ça représente 350 millions sur 2025. Ça, c'est des chiffres de France Université, auxquels vont s'ajouter probablement en 2026. Je dis bien ajouter, hein, les 350 millions, ils ne vont pas disparaître. On va les repayer l'année prochaine. Ils vont s'ajouter en gros 250-260 millions. On va voir comment on atterrit. Donc, en fait, le calcul, ça fait 610 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez d'un côté une baisse en termes réels de 800 millions, de l'autre côté une hausse de charge de 610 millions. Bon, j'arrondis, mais ça fait 1,5 milliard à peu près. Et pourquoi j'arrondis 1,5 milliard au lieu de dire 1,4 milliard? C'est parce que le budget consacré à l'enseignement supérieur, c'est 15 milliards et ça fait 10%. Donc voilà, c'est une baisse de budget de 10% à une période où, alors sur les 10 dernières années, il y a eu une hausse de la population étudiante de l'ordre de 20%, dont à peu près 10%. Oui, c'est 10% de baisse d'un côté, 10% de hausse de l'autre. À peu près 10% ont été pris en charge par les universités. C'est, sur cette période-là, c'est une diminution de 2/3 du niveau de fonds de roulement des universités. Alors, on nous dit qu'on a beaucoup de trésorerie. Dauphine a beaucoup de trésorerie. On a une trésorerie gigantesque. On a 172 millions de travaux en cours. Donc oui, on a une trésorerie, heureusement, parce qu'on est censé payer 20% de ces travaux. Si on prend la trésorerie non gagée, là, elle est toute petite. Si vous prenez par exemple les critères de solvabilité, de régulation qui ont été, les nouveaux critères, vous prenez par exemple le fonds de roulement en termes de jours de charge décaissable, la limite c'est à 15, on est à 19.
Si vous enlevez
tout ce qui est gagé. Donc bon, c'est une situation de gestion de bon père de famille, mais ni plus ni moins. Donc, il n'y a pas 5 milliards de trésorerie dans les universités. Il y a peut-être 700 millions, quelque chose comme ça. Je viens de vous dire que la facture supplémentaire l'année prochaine, c'était 610 millions. Donc, en gros, à la fin de l'année, il n'y a plus de trésorerie dans les universités. Et en plus, avec une méthode qui est de dire, bon, les universités peuvent faire un effort et prendre sur leur trésorerie. Bah oui, mais il y en a qui en ont beaucoup, éventuellement, puis il y en a qui n'en ont pas. Et donc, il y en a qui vont avoir de grandes difficultés.
Alors, on entend une petite musique qui monte depuis quelques mois sur le fait que nous formerions trop de jeunes dans le supérieur, en particulier au niveau master, avec parfois des diplômes sans réel débouché professionnel et des effectifs dans certains masters très très faibles. Est-ce que l'avenir de l'université, ce n'est pas de réduire la voilure en termes de nombre d'étudiants, en particulier au niveau master, de rationaliser l'offre de formation pour faire des économies, plutôt que de continuer à tendre la CBI et de se plaindre du manque de moyens? Et si je fais un parallèle avec le budget de l'État, c'est un peu les débats qu'il y a au Parlement sur on augmente les recettes, mais on ne s'attaque pas aux dépenses.
Oui, alors écoutez, quand on veut baisser les ressources, on dit que c'est à l'autre de faire le travail. Je ne dis pas que tout est parfait. D'abord, il faut regarder de quoi on parle. Par exemple, si vous prenez certains masters, alors on n'a plus le droit de dire recherche, mais ce qui correspond quand même aux anciens débats, oui, il peut y avoir peu d'étudiants. Ça, c'est une réalité. Et puis, c'est d'autant plus une réalité que le métier d'enseignant-chercheur est de moins en moins attractif avec une baisse de pouvoir d'achat assez massive.
Même dans des licences, dans certaines disciplines, enfin, il y a des...
Oui, oui, on peut sûrement progresser. Je pense que pour avoir échangé avec France Université, tout le monde a envie de progresser. Mais ce n'est pas la masse, ce n'est pas là qu'on va faire des économies énormes, je ne crois pas. Enfin, et on parle d'un ensemble d'étudiants qui sont envoyés dans les universités parce que c'est aussi aussi ça. Hein. Quand vous me dites, est-ce qu'on veut emmener tout le monde en bac plus 5, déjà, est-ce qu'on veut emmener tout le monde au bac et déverser tout le monde dans les universités? Parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un échec assez important en licence. Mais oui, les universités font ce qu'elles peuvent. Mais tout le monde est pris en licence et les universités sont tenues d'avoir des capacités d'accueil élevées pour justement essayer de s'occuper de tout ce monde-là. Donc voilà, c'est un ensemble.
D'accord. On a aussi la démographie, puisqu'on sait qu'à l'horizon 2030-2032, les effectifs étudiants vont baisser. Alors est-ce qu'il faut tenir jusqu'en 2030-2032? Parce que ça peut être une autre solution, c'est de se dire, aujourd'hui on a des volumes d'étudiants, ceux-ci vont diminuer mathématiquement dans le futur.
Et il y aura des morts avant 2032, si on attend 2032. Et puis il faut... Le taux d'encadrement n'est pas du tout suffisant dans les universités. Donc il faudra plutôt profiter de la baisse démographique pour améliorer les conditions d'accueil des étudiants, je pense, et essayer d'améliorer le taux d'encadrement.
Et pour Dauphine alors, parlez-nous un peu de son état de santé. Est-ce que vous êtes au bord du déficit vous aussi? Comment vous arrivez à compenser l'affaiblissement de soutien de l'État? Où allez-vous chercher des ressources propres et quelles sont vos marges de manœuvre?
Écoutez, quand je suis devenu vice-président sous la présidence d'Isabelle Huot, Dauphine arrivait à mettre un petit peu d'argent de côté en prévision justement des travaux. Depuis 2020-2021, on n'y arrive pas du tout. Donc on a commencé à rentrer en déficit en 2022. On a refait un déficit en 2023, refait un déficit en 2024. On a ouvert 25 en déficit.
De quel niveau à peu près?
Des niveaux, le plus haut niveau, c'était 1,6 million, qui pour notre budget qui est autour de 125 millions n'est pas très important. Donc il n'y a pas de raison d'être inquiet. Mais ça montre quand même qu'on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Donc cette année, on devrait revenir, atterrir 2025 en positif, mais au prix notamment de rajouter des tranches pour les foyers fiscaux qui ont les revenus les plus élevés, rajouter des tranches dans nos droits de
scolarité.
Parce
que vous avez été l'une des premières universités, ou établissements en tout cas, à passer aux droits de scolarité modulés selon les revenus des parents.
Voilà, donc ça va de zéro à... ça dépend en licence, en master, il y a des niveaux différents.
Ceux qui payent le plus payent environ quoi, 5 000 euros?
Alors, en licence, c'est 4 800 euros aujourd'hui, pour des foyers fiscaux qui ont un revenu brut global au-dessus de 200 000 euros. Mm-hmm. Donc, c'est des revenus quand même assez élevés. Et en master, pour ces mêmes personnes, ça va jusqu'à 11 000 euros.
Okay.
On a aussi énormément travaillé cette année sur la campagne de taxes d'apprentissage. Vraiment, on a énormément travaillé et on a réussi à progresser, ce qui nous a beaucoup aidé pour atterrir en positif. Et on travaille beaucoup, évidemment, sur le reste à charge, sur le plan de l'apprentissage. Mm-hmm. Formation par apprentissage. C'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir.
Ça représente beaucoup l'apprentissage à Dauphine?
L'apprentissage, c'est la première ressource propre de Dauphine. Ouais.
Et en termes de nombre d'étudiants?
En termes de nombre d'étudiants, c'est 1600 étudiants sur 10 000 étudiants en formation initiale. Et quand je dis 10 000 étudiants, il ne faut pas oublier que Dauphine est un très gros centre de formation continue également. Et alors, on parle d'apprenants plutôt que d'étudiants parce que tous n'ont pas un diplôme à la fin, mais c'est à peu près 4 000.
Qu'est-ce que vous pensez des bachelors très internationaux que l'on voit fleurir un peu dans les business schools, évidemment, mais maintenant aussi dans quelques écoles d'ingénieurs ambitieuses comme Centrale Supélec? Par exemple, ce sont des bachelors de 4 ans, dont chaque année coûte à peu près 20-25 000 euros, qui s'adressent à un public étranger, notamment, pas que, mais est-ce que vous pourriez faire ça à Dauphine?
Alors, c'est quelque chose qu'on a installé à Paris Sciences et Lettres cette année. Il ne coûte pas 25 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on s'autorise à créer ce type de diplôme, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aujourd'hui créer de nouvelles formations, et en l'occurrence, il s'agit d'une licence internationale, c'est-à-dire complètement en anglais, sur l'intelligence artificielle, il y a d'énormes besoins de formation, on a besoin d'attirer des talents, sauf qu'on n'a pas les moyens de déployer une nouvelle formation qui serait créée ex nihilo.
Vous n'avez pas les enseignants-chercheurs qu'il faut?
On n'a pas les enseignants-chercheurs qui sont déjà suroccupés. Puis, il faut avoir du personnel administratif aussi qu'il faut rémunérer. Voilà. Et un étudiant, ça vous coûte, même si vous tirez les coûts en licence, ça va vous coûter 8 000 euros par étudiant, quelque chose comme ça.
Et si vous la mettez à 20 000 euros, cette licence, ça vous donne des marges de manœuvre pour payer?
On ne la mettra pas à 20 000 euros, on la mettra avec des tarifs modulés qu'on essaiera de rendre le plus raisonnable possible sur le modèle de Dauphine, parce qu'encore une fois, à Dauphine, les tarifs sont raisonnables. On fait faire un effort qui est raisonnable par rapport aux revenus de la famille, de manière à pouvoir financer cette licence. Cette licence, d'une certaine manière, ne bénéficiera d'aucune subvention.
Un mot sur les campagnes de levée de fonds. On a vu qu'HEC avait annoncé une campagne de 300 millions d'euros là, il y a quelques jours. Vous en faites aussi du mécénat. Est-ce que c'est une voie de ressources propres pour l'avenir?
Alors, chez nous, on en fait. Depuis longtemps, on n'est pas à ces niveaux de 300 millions. On n'a pas non plus les mêmes équipes qu'HEC en termes de nombre. On en fait pour lever de l'argent pour la recherche. Donc ce sont des chaires, c'est traditionnel. Et on en fait beaucoup aussi pour financer tout ce qu'on fait en plus à Dauphine. Donc notre programme Égalité des Chances, dans lequel on accompagne chaque année entre 800 et 900 lycéens et lycéennes pour les aider à monter en niveau avec des cours de renforcement en maths, en français, etc. On le fait aussi pour financer des opérations en lien avec le handicap. Il y a aussi l'incubateur de Dauphine qui est porté par la Fondation et on accompagne à la fois des alumni mais aussi des jeunes dans notre parcours talent qui arrivent à 17-18 ans, ça c'est assez incroyable, avec des idées de création d'entreprise qu'on accompagne. Et tout ça, tout ce plus est financé par la Fondation et des levées de fonds. Maintenant, rentrer dans un système un petit peu à l'américaine, HEC arrive à le faire. Je pense que globalement, on en est loin en France. Nous aussi, on en est loin. Mais il faut commencer à travailler. En Angleterre, ils s'y sont mis relativement tard. Et en fait, maintenant, ils y arrivent. Et c'est évidemment une piste importante pour l'avenir. Alors attention, hein, parce qu'on parle beaucoup du modèle économique des universités. Tout ça, ce sont des choses qui sont très fragiles. J'aimerais pas qu'on arrive dans un système où ça remplace la subvention pour charge de service public. Il faut qu'on ait un socle. Il faut que les universités soient en capacité de mieux accueillir les étudiants, de faire mieux. Et ça, c'est des ressources supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'à Dauphine, on a un certain confort de vie par rapport aux autres universités? C'est parce que justement, on fait ça. Mais il ne faudrait pas qu'on ait l'idée de venir nous l'enlever.
Que l'on remplace l'autre, oui, bien sûr.
Revenons-en à vos activités internationales. Vous êtes une université qui est particulièrement active hors de nos frontières, mais dans un étranger proche. Je ne parle pas des échanges d'étudiants, mais bien de vos implantations. Vous avez un campus à Londres, vous en avez un autre à Tunis, vous venez d'en ouvrir un troisième à Dakar, puis vous avez, via des partenaires, vous êtes présent à Madrid et Francfort. Alors, quelle est la rationalité de vos implantations? Vous n'êtes pas en Asie, avec les aspects de croissance les plus élevés. Vous n'êtes pas à Dubaï, comme beaucoup de vos concurrents. Donc, comment vous choisissez vos implantations?
Alors d'abord, on a aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de mobilité. On a 160 partenaires répartis un petit peu partout dans le monde, y compris en Asie. Partout. Et ça, c'est assez important pour nous, la mobilité des étudiants. D'abord, c'est une demande des étudiants. Et puis, on pense que c'est vraiment important de voir d'autres cultures, d'autres pratiques. C'est extrêmement enrichissant pour eux. Si je prends un point de vue un peu plus géopolitique, je pense que c'est aussi notre contribution aux échanges internationaux. Et on sait que bien se connaître, eh bien, c'est potentiellement éviter des conflits aussi. Donc, on veut participer aussi de cette dynamique. Et ensuite, sur le choix de nos implantations, notamment pour les campus, on est vraiment sur Tunis ou une nouvelle implantation à Dakar, on est vraiment pour contribuer à la formation d'élite locale. On est vraiment là pour ça. Autrement dit, on exporte d'une certaine manière notre mission de service public dans ces pays. À Londres, la logique est un petit peu différente. Au début, quand le campus de Londres a été mis en place, c'était une manière d'avoir, un petit peu comme fait NYU, une façon d'avoir un lieu où envoyer nos étudiants. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique différente d'internationalisation de campus et d'attractivité des talents internationaux dans le campus de Londres qui vont venir faire un bachelor, donc une licence pour nous, en 3 ans, et qui ensuite, une partie va revenir à Dauphine, Paris.
Vous avez combien d'étudiants à Londres aujourd'hui?
Pour le moment, Londres, c'est pas très gros, c'est 250 étudiants. On veut monter en puissance, donc on va ouvrir un nouveau groupe dès la rentrée. Donc c'est incrémental, hein, parce que le campus de Londres n'a pas de subvention, hein, c'est pareil, il vit sur ressources propres. On va y installer prochainement, alors plutôt en 2027, mais notre double licence en IA et sciences des organisations. Il y a un gros travail qui a été fait à Londres d'internationalisation du campus, qui fonctionne très bien. Cette année, on a eu en recrutement 50%, enfin plus de 50% de vrais étrangers, alors qu'à une époque, on avait plutôt des Français venant de l'étranger. Mmh. Donc c'était des Français, des globetrotters, mais venant des lycées français de l'étranger. Là, on passe dans une autre dynamique où vraiment le campus s'internationalise très fortement.
Et vous avez d'autres zones qui vous intéressent dans les années à venir, d'autres implantations à venir?
Ah, écoutez, on verra, mais vous savez, gérer 3 campus avec la définition de trajectoire de croissance de ces campus en autofinancement, c'est pas une chose simple. Donc, donnez-nous le temps de développer déjà ces campus.
Est-ce qu'il y en a un qui est rentable ou à l'équilibre déjà?
Oui, il fonctionne. Il fonctionne.
Ouais. C'est pas des centres de coûts?
Non.
Ok. Bruno Bouchard, j'ai 2 dernières questions à vous poser avant de terminer cet entretien. La première s'adresse aux mathématiciens que vous êtes, ainsi qu'aux spécialistes d'IA. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur ce sujet au niveau de PSL. Alors, depuis 3 ans que ChatGPT est entré dans nos vies, dans notre quotidien, beaucoup a été dit, écrit, commenté. On n'en est pas au bout. Mais il me semble, c'est tout à fait personnel et subjectif, que le ton général actuel est plutôt à la défiance, à l'inquiétude en ce moment, au fur et à mesure qu'on prend conscience de l'ampleur de cette révolution. Il nous reste 3 ans pour refuser de capituler devant ChatGPT, a dit par exemple un philosophe récemment, qui s'appelle Éric Sadin, qui a donné un discours inaugural très alarmiste le 2 décembre, là, lors de la Journée mondiale des futurs à l'UNESCO. Et il a appelé à une mobilisation générale contre ce qu'il appelle l'implacable machine à broyer qu'est l'IA générative. Alors, je ne voudrais pas être trop longue là-dessus, mais il a des mots très forts. Il dit notamment que ChatGPT ne s'apparente en aucune manière à un langage humain. C'est un pseudo-langage mathématisé, fondé sur des équations statistiques et sur le principe cardinal de la corrélation et de la probabilité. Il dit que c'est un langage dépourvu de toute vitalité, même nécrosé. Enfin, il utilise vraiment des mots forts. L'opposé absolu de la façon dont nous, les humains, utilisons un langage fondé sur l'association des pensées singulières et non sur des statistiques. En gros, il pense qu'on va payer très cher la façon dont on utilise dans tous les sens l'IA aujourd'hui, sans trop réfléchir. Est-ce que vous partagez cet alarmisme? Et vous, à Dauphine, comment vous approchez ce sujet de l'utilisation des IA génératives, que ce soit en recherche, en formation, par vos étudiants?
Alors d'abord, les IA génératives et puis ce qu'il y a derrière, de manière plus générale, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, sont des, sur le plan scientifique, de formidables outils d'accélération. On le voit en santé, on le voit en astrophysique, on le voit en physique, on le voit aussi un peu en SHS, enfin dans tous les domaines. Moi-même, je les utilise pour résoudre des équations que les méthodes traditionnelles ne permettaient pas de résoudre avant. Donc là, ça, c'est le domaine des mathématiques. Donc ça nous permet vraiment de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou qu'on aurait mis des années à faire auparavant. Ça, c'est un point donc, qui est très important. Ensuite, l'utilisation grand public des IA génératives pour écrire des textes et ne plus réfléchir. Évidemment, ça, c'est une question d'éducation, mais quelqu'un d'un petit peu éduqué s'en rend compte assez rapidement que c'est assez pauvre si vous essayez de demander à une IA de vous rédiger un discours parce que vous n'avez pas le temps, bah vous allez avoir un discours extrêmement creux.
Aujourd'hui, oui, mais on peut se dire que dans 1 an, 2 ans, ça va changer et
non,
que ça va être...
Non, parce que c'est basé sur le paradigme qui est justement mentionné dans cet article et c'est complètement impossible. Mmh. Il ne faut pas penser que l'IA est intelligente, l'IA est bête. Ce sont des problèmes d'optimisation, de distance entre ce qui a été vu et la question qui est posée. Et donc, c'est quelque chose de mécanique qui n'est pas capable d'inventer, qui n'est pas capable de...
De conceptualiser, vous disiez.
Oui, c'est pas capable de conceptualiser. C'est aussi un fantasme qu'on commence à avoir même des... J'étais assez étonné, hein, des poupées maintenant qui peuvent parler avec les enfants. Alors, apparemment, il y a une option pour limiter le temps, mais qui répond aux questions de l'enfant, qui dialogue. Bon, c'est un choix. Hein. En tant que parent, j'achèterais évidemment pas ça. Oui, une IA n'est pas capable de conceptualiser. Il faut pas penser que les IA vont remplacer le cerveau humain très rapidement. Et je donnerai juste un exemple. Vous prenez une table, vous faites rouler une voiture vers le bord de la table, la voiture tombe, vous avez votre enfant d'un an qui voit ça, et l'enfant a compris le concept de la gravitation. Et s'il voit un film avec quelqu'un qui se présente à la porte d'un avion pour sauter, il va comprendre que la personne va tomber. Mmh. Essayer de faire ça avec une IA, je pense que ce sera assez compliqué.
Donc vous n'êtes pas alarmiste, vous ne pensez pas que l'IA va remplacer les humains, notamment les jeunes diplômés dans l'entreprise, parce qu'on l'entend aussi beaucoup, dans le milieu du conseil, du droit, enfin, il y a plein de secteurs qui se font du souci.
Non, mais vous savez, c'est une question d'éducation. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'interdiction des téléphones dans les lycées, parce que c'était déjà interdit dans les collèges. Évidemment, si on laisse nos enfants jouer avec des téléphones en collège et lycée, il y a un appauvrissement qui est absolument incroyable. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de jouer avec leur téléphone, il y en a 2 qui ont un téléphone, 10 derrière qui regardent, et ils ne se parlent plus. Donc voilà, il faut interdire ça. C'est à nous de prendre la main. C'est pas l'IA qui... Voilà. À un moment, il y avait la vague du métavers. Heureusement, ça n'a pas pris. Enfin, heureusement, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas pris. Et on avait l'impression qu'on allait passer nos soirées avec...
Des avatars.
Des avatars. Ben non, en fait, il y a un moment, on a besoin de l'humain et je reste assez confiant. Mais par contre, il y a une vraie question d'éducation. Et y compris dans la formation, évidemment, il faut que nous, on apprenne à nos étudiants, un, à l'utiliser, parce que ça peut être d'un gain de temps formidable, 2, avoir vraiment un vrai recul sur ce qui est fait. Les profs sont très inquiets sur le fait que les mémoires soient rédigées avec de l'IA, etc. Bon, mais avant, il y avait un groupe de 4. Dans le groupe de 4, il y en a un qui rédigeait le mémoire et les 3 autres qui étaient juste présents à la soutenance. Donc, on a juste industrialisé et accéléré une pratique qui existait déjà. Et ça, on peut le contrer tout simplement en interrogeant les membres de l'équipe qui ont rédigé le mémoire, individuellement, en donnant des notes individuelles. Voilà. En fait, il y a des bonnes pratiques qu'on doit mettre en place en tant que parent, en tant que formateur, en tant que professeur, pour éviter, évidemment, ce qui pourrait être des risques assez importants.
Une dernière question, Bruno Bouchard, puisqu'il est déjà temps de nous quitter. C'est la question traditionnelle de fin du grand oral. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture pour nos auditeurs, si vous deviez choisir un ouvrage qui vous a marqué récemment ou inspiré ?
Alors, je vais être un petit peu original, décalé, mais je voudrais revenir sur la situation des universités. Donc, je vais simplement vous lire les premières lignes de la chanson « Boucan d'enfer », je pense que tout le monde connaît, de Renaud.
Allez-y.
Alors, la citation est attribuée à Prévert ou Louis Jouvet, on ne sait pas, parce que, en fait, les deux l'ont dite après s'être rencontrés peu avant. La première phrase, c'est « On connaît le bonheur, paraît-il, au bruit qu'il fait quand il s'en va ». Et je pense que c'est quelque chose, vraiment, en France, en ce moment, la santé, c'est quelque chose de normal. L'éducation, c'est quelque chose de normal. Bah oui, mais le jour où on ne l'aura pas, parce qu'on n'aura pas su protéger tout ça, ça va faire un boucan d'enfer.
Donc vous nous conseillez d'écouter des chansons et de lire des poèmes, en gros.
Voilà.
Merci beaucoup Bruno Bouchard, président de Dauphine, d'avoir fait escale au Studio Module aujourd'hui. Merci à vous, Jérôme Cabi, et à La Fnège, qui permet à ce podcast d'exister. On se retrouve avec grand plaisir le mois prochain, en janvier donc, avec un ou une nouvelle invitée issue des sciences de gestion. Et d'ici là, portez-vous bien.